Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact négatif de la guerre contre la drogue sur l'épidémie d'hépatite C à l'occasion de la publication d'un rapport sur ce sujet par la Commission globale sur la politique en matière de drogue. Le professeur Michel Kazatchkine est mon invité. Il est membre de cette commission, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Professeur Michel Kazatchkine, je dois vous dire que les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions, mais j'ai moi aussi beaucoup de questions à vous poser, donc on va essayer de faire affaire avec les deux. Je vais me permettre de vous lire d'ailleurs quelques questions qui sont posées par les auditeurs. Il y a entre autres un auditeur qui nous dit « Mais comment savoir si on a l'hépatite C si on ne se fait pas dépister ?» Eh bien, vous allez répondre probablement qu'il faut se faire dépister, professeur Michel Kazatchkine.
Absolument. On ne peut pas savoir parce que, encore une fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, au tout début de cette émission, on appelle cette épidémie une épidémie silencieuse parce que pendant de très nombreuses années, les gens n'éprouvent absolument aucun symptôme ou des petits symptômes légers,
que
quelques nausées.
Et le test de dépistage est un peu plus compliqué que celui du sida, c'est ça aussi ?
Non, le test n'est pas plus compliqué, simplement il n'est pas disponible, il n'est pas suffisamment disponible et il n'est pas proposé. Beaucoup de médecins généralistes, enfin en France, il y a eu un grand effort depuis 6 ou 8 ans pour accroître l'accès aux tests, mais dans de très nombreux pays du monde, et en particulier dans le Grand Sud, l'accès aux tests est pratiquement inexistant.
Oui, il y a Rodrigue à Bukavu en RDC qui nous dit le problème ici, c'est que les malades arrivent lorsqu'ils sont déjà à un stade très avancé de la maladie. Et ce que vous avez dit, professeur Kazatchkine, c'est souvent le cas dans les pays en développement, mais pas que.
Absolument. Et j'aimerais d'ailleurs ici donner un chiffre. On estime qu'une personne sur quatre parmi les personnes chroniquement infectées par le virus de l'hépatite C va évoluer vers une cirrhose du foie ou un cancer du foie, enfin une maladie hépatique grave et mortelle finalement en l'absence de traitement.
Professeur Michel Kazatchkine, juste avant les informations, on était en train de parler des mesures de réduction des risques qui ont été scientifiquement prouvées, hein, vous l'avez dit, fourniture d'aiguilles et de seringues stériles, accès à des centres d'injection sécurisés, traitement de substitution aux opiacés, et vous étiez en train de commencer à nous parler de l'exemple de l'Écosse qui a beaucoup avancé dans ce domaine. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est l'exemple que nous donnons dans le rapport, mais d'ailleurs, depuis la rédaction de ce rapport, une étude a été publiée sur les Pays-Bas, qui donne des résultats tout à fait similaires. L'Écosse, en 2006, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et elle a élaboré un plan national de lutte contre l'hépatite C chez les usagers de drogue. Donc, il y a eu de larges campagnes d'information auprès des médecins, auprès des centres de santé, mais auprès aussi de la population générale. Il y a eu une augmentation de 4 à 6 fois de l'accès aux équipements stériles d'injection pour les usagers de drogue. Il y a eu un très large accroissement de l'accès aux tests, y compris dans les prisons. Le nombre de personnes dans les prisons ayant accès au traitement de l'hépatite C a été multiplié par 8 ou 10 en l'espace de 4 à 5 ans. Et le résultat, c'est que maintenant, dans ce pays, ou dans cette partie du Royaume-Uni, il y a une diminution significative du nombre des nouvelles infections par l'hépatite C dans cette population. Et les modèles mathématiques qui ont été élaborés montrent que dès lors qu'on met, disons, 100 personnes au traitement, on évitera à l'horizon 2030 50% de mortalité par cirrhose du foie. Donc c'est absolument considérable comme impact.
Et professeur Kazatchkine, du coup, j'ai envie de vous poser une question très crue. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est rentable financièrement de soigner les usagers de drogue et de faire de la prévention ?
Absolument. Donc la réponse est oui. Alors premièrement, la réponse est que les usagers de drogue sont des personnes qui peuvent et qui doivent être soignées. Je dis cela parce que dans beaucoup de pays, on se dit mais non, un usager de drogue, c'est quelqu'un de beaucoup trop imprévisible. Et puis comme il prend de la drogue, on ne va jamais arriver à le faire entrer dans un circuit de soins. Ce n'est pas vrai. Il y a des études qui montrent que les usagers de drogue sont très désireux de se soigner. Hier, nous avons le témoignage direct de deux d'entre eux dans la conférence de presse que nous tenions à Genève. Ces gens ont les mêmes chances de réussite de traitement que les personnes qui n'ont pas recours à l'usage de drogue. Et en termes de coût-efficacité, votre question crue, c'est-à-dire, est-ce que pour la société, il vaut mieux traiter ces gens que d'avoir à assumer le coût de la maladie et de la mortalité plus tard? La réponse est clairement oui, ça a été montré maintenant dans de nombreuses études.
Alors vous nous avez parlé de l'Écosse, on va maintenant partir au Maroc. On a au téléphone le professeur Driss Jamil, qui était pathologue, président de SOS Hépatite au Maroc. Professeur Driss Jamil, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de l'hépatite C au Maroc?
Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais d'après les études qui ont été menées par SOS Hépatite, dans le cadre de son travail de dépistage, on relève un petit peu les chiffres qui se fait entre 2 à 2,5%, hein, la prévalence de l'hépatite C au Maroc.
Et qui sont les personnes touchées? Est-ce qu'on a aussi affaire à beaucoup d'usagers de drogue?
Contrairement à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, la consommation de drogue au Maroc est très limitée, heureusement. Sauf dans certaines régions du Maroc, notamment le nord du Maroc, qui n'est pas loin de l'Europe naturellement. Et nous avons le problème surtout de la contamination qui se fait par les méthodes classiques. Je fais allusion aux tatouages ou certaines pratiques qui se font dans des régions lointaines, enfin, un petit peu éloignées de grandes villes. Et sans oublier aussi, nous avons aussi un autre problème, celui des soins dentaires qui se font dans des conditions qui ne sont pas toujours, qui ne respectent pas les règles d'hygiène habituelles. Et cela engendre naturellement une prévalence assez importante par rapport aux autres pays.
Et où en êtes-vous au Maroc de l'accès au traitement contre l'hépatite C?
Il faut dire que de grands pas ont été réalisés au Maroc, heureusement, depuis que cette hépatite a été créée. Nous avons lutté, justement, d'abord pour sensibiliser les pouvoirs publics sur l'intérêt de la question. Deuxièmement, pour entamer toute une démarche de dépistage, de prise en charge des sujets infectés. Et troisièmement, nous avons, grâce à notre association, inclus l'hépatite, le traitement des hépatites chroniques dans la prise en charge de l'AMO, ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Vous savez que l'assurance maladie obligatoire prend à 100% en charge le traitement des malades qui sont soumis à ce régime. Sans oublier notre part qui est tout récent, il y a moins de 3 mois, c'est la généralisation de ce qu'on appelle le RAMED. C'est le régime pour les gens démunis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture sociale. Et bien, ces gens démunis profitent maintenant de cette situation et peuvent être traités gratuitement dans les centres hospitaliers et dans les centres de santé, suite naturellement à un dossier médical qui doit être bien établi.
Professeur Kazatchkine, je voudrais vous faire réagir sur cette question de l'accès au traitement, parce que c'est un des autres éléments que vous abordez dans ce rapport. Il y a des traitements d'abord qui sont très efficaces.
Oui, il y a des traitements efficaces. Le traitement de l'hépatite C est un traitement qui permet la guérison de la maladie.
On a beaucoup avancé ces dernières années, d'ailleurs.
On a beaucoup avancé, absolument. Actuellement, c'est une combinaison thérapeutique de ce qu'on appelle l'interféron et la ribavirine. C'est un traitement d'environ 6 mois. C'est un traitement qui n'est pas facile à supporter. L'interféron se donne par injection, mais c'est un traitement qui, disons, entre 50 et 80% des cas peut apporter la guérison. Et nous avons à l'horizon, dans les 2 ans qui viennent, des traitements par voie orale, donc des comprimés, un comprimé par jour, qui en 3 ou 4 mois devraient apporter au moins 70 ou 80% de guérison. Donc on est quelque part dans un domaine très fort au plan thérapeutique et pourtant l'accès au traitement est très très faible. Moi j'étais vraiment très heureux d'entendre notre collègue marocain parce que ce qu'il a dit est très important, c'est qu'au Maroc, on a réussi à inscrire cette maladie dans la liste des maladies qui fait partie du paquet que rembourse l'assurance maladie de base. C'est la seule façon d'y arriver. Dans le reste du monde, il y a tant de pays où personne n'a accès à l'assurance maladie et où le traitement est inaccessible d'abord parce qu'il est peu disponible, mais aussi parce qu'il est à des coûts prohibitifs. Le coût du traitement en Ukraine, qui est un pays où l'épidémie est considérable, 3 millions de personnes probablement infectées et quelque part autour de 250 000 usagers de drogue infectés par le virus de l'hépatite C, un traitement pour l'hépatite coûte quelque part autour de 10 000 dollars par an et par traite. Enfin, par
inabordable,
traitement. Donc. Absolument inabordable si on n'a pas d'assurance maladie. Inabordable pour les malades et inabordable quelque part pour les programmes internationaux d'aide.
Et pour les systèmes de santé, je dirais aussi.
Et bien sûr, pour les systèmes de santé. Donc il faut absolument que pour l'hépatite, dès lors qu'on prend conscience de cette épidémie et de son impact dans le monde, on entre dans un processus de campagne et de lutte pour que les prix des médicaments baissent. Et pour moi, ce qu'a fait le Maroc, et pour moi, l'inscription des traitements de l'hépatite dans les médicaments essentiels de l'OMS, tout ça, ce sont des démarches absolument fondamentales.
Et alors, cette baisse du prix des traitements, je dirais que c'est un domaine que vous connaissez bien, hein, que vous connaissez bien, quand vous avez dirigé le Fonds mondial, vous avez beaucoup travaillé sur la baisse des traitements sur le sida. Comment, et c'est une question que vous abordez dans ce rapport, comment dialoguer avec l'industrie pharmaceutique, hein. Je crois qu'il y a deux grands labos, hein, qui fournissent ces traitements, qui sont l'interféron et la ribavirine dont vous avez parlé. Comment maintenant les obliger à baisser ces traitements, ces coûts des traitements pour les pays en développement et les pays en difficulté?
Alors, il y a deux façons de faire. La première, qui a été déterminante dans la lutte contre le sida et l'accès aux médicaments du sida, c'est la compétition générique. Alors, pour la ribavirine, il commence à y avoir des génériques. Pour ce qui est de l'interféron, qui est un produit qui n'est pas un médicament, ce n'est pas une molécule synthétique, il commence à y avoir ce qu'on appelle des biosimilaires, malheureusement, on ne dispose encore que d'assez peu d'études sur l'efficacité de ces biosimilaires et sur leur efficacité sur différents types de virus de l'hépatite C. On n'a pas parlé de cela encore, Claire, mais on ne peut pas tout évoquer. Dans différentes régions du monde, les virus sont un peu différents les uns des autres. Et l'autre façon de faire, c'est d'ouvrir le dialogue. Et le dialogue, c'est que il y a un marché potentiel absolument gigantesque. Donc, les laboratoires devraient comprendre que s'ils venaient à baisser leur prix à l'unité, bien sûr,
ils en vendraient plus.
Ils en vendraient plus et ils feraient leurs bénéfices sur les volumes. Et quelque part, les laboratoires disent d'accord, on est prêt à comprendre cet argument, mais pour ça, il faut que vous, autorité de santé publique, vous testiez les gens à plus grande échelle et que vous nous assuriez de l'accès au traitement. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux ou de serpent qui se mord la queue.
Professeur Driss Jamil, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport rendu par la Commission globale sur la politique en matière de drogue? Est-ce que ça peut vous aider, vous, dans votre travail au Maroc, dans le dialogue que vous avez avec les autorités sur les politiques de réduction des risques?
Sûrement. Vous savez que les autorités marocaines sont conscientes de ce problème. Et d'ailleurs, la réunion qui a eu lieu récemment sur le VIH a justement mis l'accent sur la nécessité que l'État s'intègre dans cette perspective. Vous savez que, au principe, au Maroc, la consommation de drogue est sujet quand même à certaines restrictions et surtout qu'elle est même passible de sanctions importantes, aussi bien par des pénalités que par même des sanctions carcérales. Et le but, justement, c'est d'améliorer la condition de vie des drogués, le respect de leurs droits humains et surtout de lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont ils sont victimes. Et dans ce but-là, que le ministère a mis même à disposition des consommations de drogue des lieux de centres d'addiction, donc pour les aider à lutter, la mise à leur disposition de seringues jetables pour éviter justement la contamination, entre autres, de l'hépatite C et autres maladies transmissibles. Et cela aussi dans le but justement d'améliorer les conditions des usagers de la drogue qui, comme j'ai bien signalé, sont restent quand même peu nombreux. Ils sont évalués à peu près à 14 000 usagers qui sont répertoriés d'après les chiffres du ministère. Donc ça, par rapport à l'hépatite C, on voit que c'est considérablement différent parce que tout simplement le moyen de contamination de l'hépatite C diffère de manière significative par rapport aux autres pays.
Merci beaucoup, hein, professeur Driss Jamil. Je rappelle que vous êtes hépatologue, président de SOS Hépatite au Maroc.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Michel Kazatchkin, avant d'en venir aux préconisations de la Commission globale sur la politique en matière de drogue, je voudrais vous faire part de quelques questions d'auditeurs qu'on a reçues. Séverin à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, nous dit « Je sais que l'hépatite C se contamine par voie sanguine, mais est-ce qu'elle se transmet aussi par la salive ?» Autre question de Kofi à Lomé au Togo, « Est-ce qu'on peut transmettre le virus de l'hépatite C à son conjoint par voie sexuelle ? Qu'en est-il aussi de la transmission mère-enfant ?» Trois questions sur la transmission, professeur Kazatchkin.
Écoutez, il y a des rapports anecdotiques de transmission par voie sexuelle. Il y a un certain nombre de cas documentés de transmission verticale de la mère à l'enfant. Mais tout cela reste à une échelle extrêmement faible. Et donc, la réponse est pratiquement non aux trois questions posées, même si ce n'est pas
non à 100%,
non, à 100%. Donc, de très loin, la contamination, c'est le contact du sang avec le sang.
Professeur Kazatchkine, vous l'avez dit, hein, de grands progrès sur les traitements, de nouveaux traitements qui devraient arriver d'ici 2 ans. Le vaccin, toujours pas de vaccin contre l'hépatite C, il y en a un contre l'hépatite B.
Oui, toujours pas de vaccin contre l'hépatite C et finalement une recherche sur le vaccin contre l'hépatite C qui se heurte quelque part aux mêmes obstacles que la recherche sur le VIH, c'est-à-dire que fondamentalement, alors que dans l'hépatite C, on a un exemple naturel, on sait qu'il y a des gens qui guérissent de leur hépatite B en produisant des anticorps spécifiques contre le virus de l'hépatite B, donc on a élaboré un vaccin qui induit le même type d'anticorps, qui est sur ce modèle, on n'a pas encore compris les mécanismes qui permettent au petit nombre de gens qui éliminent le virus de l'hépatite C, petit nombre de gens, hein, 20% à peu près, après un contact infectant, on n'a pas encore suffisamment compris les mécanismes de cette élimination pour pouvoir essayer de les mimer avec un vaccin. Donc c'est une recherche encore difficile.
Avant d'en venir aux préconisations, une dernière question par rapport à la situation en Ukraine. On a compris qu'elle était très difficile, mais est-ce que ce n'est pas un des pays où on commence quand même un peu à avancer ?
Oui, absolument. Moi, j'aimerais rendre hommage aux efforts de ce pays, à la fois aux efforts des autorités publiques qui viennent de rédiger un premier plan de lutte nationale contre les hépatites. C'est le premier pays, à ma connaissance, dans la région Europe de l'Est, Asie centrale, très très touché par le virus du sida et l'hépatite C, singulièrement chez les usagers de drogue, c'est le premier plan de ce type. Et puis rendre hommage aussi à la société civile, aux activistes qui se sont vraiment battus. J'ai vu des images, des manifestations, j'ai été en contact au téléphone avec des collègues et des amis dans ce pays. Ils se sont vraiment battus pour faire reconnaître le droit de ces gens. Je reviens sur deux chiffres. Ils ont été très courageux. Je reviens sur deux chiffres. On estime à 220 à 250 000 le nombre d'usagers de drogue infectés par le virus de l'hépatite C en Ukraine. Et il y a actuellement 200 personnes ou quelque chose comme ça qui ont accès au traitement. Et ce fameux plan qui vient d'être élaboré va ouvrir cet accès à 2000 personnes, c'est-à-dire qu'on est encore dans des proportions vraiment très très faibles. Mais en tout cas, le mouvement est là et l'Ukraine est un des rares pays de la région qui a mis en place des programmes de réduction des risques, y compris le traitement substitutif par la méthadone qui est encore illégal et interdit dans la Fédération de Russie voisine.
Quelles sont les préconisations de la Commission ? Cette Commission, vous l'avez dit en début d'émission, elle en est à son troisième rapport. Elle termine tous ses rapports avec des préconisations. Alors, quelles sont-elles ?
Alors, elles sont d'abord que les gouvernements et les Nations Unies contribuent à une prise de conscience nationale, régionale et internationale, un, de l'hépatite C en général, et deux, de ce que l'hépatite C est largement véhiculé par l'usage de drogue. Deuxième recommandation, que les gouvernements élaborent des plans nationaux de lutte contre l'hépatite C, qui commencent par des campagnes d'accès aux tests, et puis se poursuivent par l'accès au traitement. Trois, que les gouvernements veillent à supprimer tous les obstacles législatifs ou matériels qui existent à l'accès au traitement substitutif et à l'accès aux seringues et aux aiguilles propres. Voilà pour ce qui concerne l'hépatite, si vous voulez. Et plus généralement, la Commission reprend ses recommandations générales qui sont: décriminalisons l'usage, c'est-à-dire continuons à lutter contre le trafic illégal, luttons contre les gros trafics, luttons contre les cartels, mais continuer un régime d'interdiction et de prohibition qui aboutit inutilement à l'emprisonnement et à la marginalisation des personnes ne sert
ça
à rien.
Pas. Mais ça veut dire que
ouvrons le débat international enfin sur ces questions. Regardez dans notre pays, en France, à quel point ce débat est quelque part encore coincé et idéologique et n'est pas ouvert, n'est pas franc, alors que maintenant la production de cannabis à la maison, par exemple, en France et largement en Europe, n'est un secret pour personne.
Et ça veut dire, alors, puisqu'on est sur la situation en France, concrètement, ça veut dire quoi ? Vous prenez la légalisation du cannabis ?
Alors,
ou la dépénalisation,
alors voilà, ce que la Commission prône, c'est d'abord qu'on arrête la pénalisation. Et puis qu'on ouvre le débat et qu'on entre dans des systèmes d'expérimentation. Parce que si vous prenez des pays comme la Suisse, où je me trouve actuellement, qui vous savez, est un pays qui a ouvert des salles de shoot, un pays qui a eu une politique très, très progressiste sur ces questions, ces politiques ont été mises en place en Suisse, à la suite d'évaluations scientifiques rigoureuses des programmes mis en place, suivies d'un débat démocratique avec la population. Et donc c'est ça que dit la Commission. Elle ne dit pas « légalisons les drogues ». Elle dit d'abord « dépénalisons l'usage », ça c'est clair, à cause des dommages sur le système de santé. « Ouvrons le débat », deuxième étape. Troisième étape, expérimentons. Et oui, probablement, la légalisation du cannabis, je le pense personnellement, et nous sommes nombreux à le penser dans la commission, est un des moyens qu'il faut expérimenter. D'ailleurs, ça avance assez vite en Uruguay, ça avance dans maintenant l'esprit de nombreux chefs d'État en exercice au Guatemala, en Colombie, comme je l'ai dit. Vous avez entendu parler du vote spontané de la population dans le Colorado et l'État de Washington aux États-Unis, le Maryland aussi maintenant. Donc les choses bougent et j'ai peur que dans notre pays, la France, si nous n'ouvrons pas le débat, eh bien plus nous attendrons pour l'ouvrir, plus ce débat risque d'être heurté entre des positions idéologiques, plutôt que de véritablement mettre sur la table les arguments scientifiques, les arguments médicaux, la souffrance des gens, et rester sur des positions qui sont, par exemple, que non, c'est absolument... il faut interdire la drogue, et c'est comme ça qu'on l'arrêtera. On a quand même l'expérience avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui nous a montré que les politiques prohibitionnistes n'aboutissaient à rien.
Ne marchait pas. Vous demandez aussi, on l'a évoqué dans cette émission, une baisse des prix des nouveaux traitements, et vous parlez aussi du rôle des Nations Unies. Qu'est-ce que vous demandez de façon plus générale aux Nations Unies? Je veux dire, vous êtes bien placé aussi pour demander
alors,
ça.
Alors, nous demandons aux Nations Unies un débat, mais ce débat, maintenant, les Nations Unies l'ont ouvert, puisque le secrétaire général des Nations Unies, il y a quelques semaines, a annoncé qu'il se tiendra, et ce pour la première fois depuis 18 ans, une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies au début de 2016 qui sera consacrée aux politiques de drogue et nous espérons beaucoup que d'ici là, dans ce que le secrétaire général appelle le débat intensif qui doit précéder cette session, les mentalités s'infléchissent pour qu'enfin la question des drogues soit regardée comme une question de santé publique et pas comme une question pénale.
Merci beaucoup, professeur Kazachin. Vous restez avec nous. On va faire un point sur les inégalités de santé en Afrique.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, on va parler du colloque francophone international sur les inégalités de santé en Afrique qui a eu lieu du 21 au 23 mai à Dakar, au Sénégal. Docteur Chaktidiane Atié, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur de l'ONG Action et Développement, coordonnateur de l'Université de Dakar en promotion de la santé. Un mot sur quelles sont ces inégalités de santé en Afrique?
En Afrique, en réalité, nous rencontrons pratiquement beaucoup d'inégalités qu'on arrive souvent à retrouver dans beaucoup de pays sous-développés. Les inégalités les plus criardes sont en général liées aux inégalités territoriales. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence à l'accès aux services de santé et à des services sociaux de santé, à des services sociaux, entre le milieu rural et le milieu urbain. Le milieu rural est plus souvent assez enclavé, les structures de santé sont très enclavées, il y a très peu de personnel de santé qualifié, mais aussi il y a très peu de structures qui ont, comment dirais-je, les possibilités d'offrir des services de santé tels qu'on peut les retrouver dans le milieu urbain ou périurbain. Donc ça constitue un grand problème qui fait que, compte tenu des routes qui sont souvent très mauvaises, compte tenu de l'enclavement en période d'hivernage, beaucoup de catégories de population, surtout les femmes enceintes, ont des problèmes d'accès à des services de santé autant opportuns, mais aussi que ce soit des services de santé de qualité.
Et l'autre inégalité, elle est financière.
Il y a des inégalités financières, bien entendu, et je crois qu'aujourd'hui, les grandes campagnes qui sont mises en place, les grandes stratégies, comment dirais-je, de couverture maladie universelle qui sont mises en place par beaucoup de pays en Afrique, montre l'importance justement d'amener la majeure partie des populations à pouvoir avoir l'accès financier aux services de santé aujourd'hui.
Cheikh Tidiane, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Du coup, à la suite de ce colloque, qu'est-ce que vous demandez très concrètement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Bien entendu, il faudra obligatoirement réfléchir sur les meilleures stratégies pour réduire ces inégalités. Et là, nous sommes en train de travailler sur un observatoire. Nous avons travaillé aussi sur une déclaration de Dakar. Dans laquelle déclaration de Dakar, il y a beaucoup de points sur lesquels nous insistons pour amener justement les États à réfléchir pour qu'il y ait une égalité de chances à l'accès aux services de santé.
Et ce qui vous préoccupe aussi, c'est les post-OMD. Qu'est-ce qui va se passer après les objectifs du millénaire pour le développement? Une réaction par rapport à ça, professeur Kazatchkine, c'est aussi une de vos inquiétudes?
Oui, c'est une inquiétude parce que la santé est au cœur du développement, au cœur des inégalités. Les inégalités en santé sont les plus criantes et quelque part les plus insupportables pour les populations. Et je suis inquiet de ce que le débat sur les objectifs post-2015 du millénaire maintenant devient un débat très généraliste où les objectifs concrets qui ont permis tant de progrès dans les 10 dernières années disparaissent un peu de l'horizon.
Et c'est une inquiétude. Merci beaucoup, professeur Kazatchkine. Merci beaucoup aussi, docteur Cheikh Tidiane. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Merci à la radio suisse romande qui nous a permis d'établir cette liaison à Genève. Lundi, on parlera du couple, comment entretenir une relation de couple. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions. Bonne fin de semaine et bien sûr, à lundi.